Donc, je pense que la bonne fête des mères est à tout le monde ici, parce que je pense que chacun d'entre vous avait une maman. Et je suis content qu'il y ait une fête pour cela, parce que, comme je disais tantôt, c'est comme un anniversaire, c'est comme un... on a un manque de reconnaissance souvent envers nos mamans. On n'a pas contemplé comme il faut qu'est-ce qu'a été leur vie, leurs 18-20 années de consécration envers nous. Et je pense qu'on apprécie trop tard dans la vie qu'est-ce qu'ont été nos mères. C'est important d'arrêter d'être reconnaissant pour les années où nous n'avons pas été reconnaissants de leur rapport pour ce qu'elles ont vécu. Pourquoi? Parce qu'être une mère, ça bouleverse une vie. Ça bouleverse ton budget. Il y a des études qui ont démontré que une famille va dépenser en moyenne 5 200 $ par année pour un enfant. Une famille moyenne aura dépensé 100 000 $ pour un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Okay? C'est pas rien, là. Alors, le choix entre avoir des enfants ou pas d'enfants, ça peut te mettre en retard de 100 000 $ sur ton budget, mettons, en 18 ans. C'est pas rien. Une famille aisée, elle, va avoir dépensé jusqu'à 180 000 $ pour un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ce montant-là est presque doublé si une maman décide de rester à la maison puisqu'elle n'a pas eu un revenu durant cette période-là. Et donc, pour ma part, je veux honorer ma femme qui, pour elle, c'était important de rester à la maison avec les enfants jusqu'à l'âge scolaire. Ça donne un démarrage émotionnellement stable dans la vie de nos enfants et je suis reconnaissant que Steph ait tenu à ce qu'on fasse ça comme ça. Donc, c'est sûr, l'amour, c'est pas quantifiable avec l'argent, mais l'amour, ça peut être quantifiable avec ce que tu te prives parce que tu aimes l'autre. Et certainement, l'argent en fait partie. Donc, ça affecte le budget. Ça affecte, avant, quand tu n'avais pas d'enfant, je veux dire, tu pouvais faire peut-être plus de choses. L'argent, ça ne rend pas heureux. Les dettes, ça rend malheureux. Mais l'argent, ça ne rend pas heureux, mais ça donne des options. Mais quand tu as des enfants, tu perds des options. Tu choisis d'avoir moins d'options puis de te consacrer à l'enfant qui vient de naître. Ça touche aussi à ton sommeil. Tu dors quand l'enfant dort. Ça réduit tes loisirs et ça augmente tes responsabilités. Il y a des études qui ont été faites que la qualité de vie, si on la résume à se sentir bien dans la vie puis faire ce qu'on veut, il y a des sondages qui disent que la qualité de vie diminue à la naissance du premier enfant et remonte quand l'enfant commence à avoir 18 ans à peu près. Si on parle, qu'on pense à bien-être personnel, penser à soi-même et tout ça, okay? On sait que c'est plus que ça. Le bonheur, il y a beaucoup de bonheur pour donner notre vie pour ceux qu'on aime, hein? C'est ce que Jésus nous a dit. Par contre, il y a moins de loisirs et il y a plus de responsabilités. Avant, on faisait ce qu'on voulait, on mangeait à l'heure qu'on voulait, hein? Mais là, depuis qu'on a un enfant, quand il a faim, il faut le nourrir. Nos loisirs changent. Par exemple, quand nous, on a eu notre premier enfant, Steph avait l'habitude d'aller 3 fois par semaine voir son cheval. Mais là, elle ne pouvait plus aller prendre le poupon, puis amener le carrosse, le mettre dans l'écurie, puis se promener avec son cheval. Fait que là, j'y allais avec elle, où je gardais la petite. Donc, ça a changé un petit peu mon style de vie. Mais on allait où ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait. Mais quand on a eu des enfants, les enfants ont pris priorité sur qu'est-ce qu'on voulait ou qu'on aimerait faire. Hein? Et donc, quand ils sont malades, la maladie aussi. Quand les enfants sont malades, nos responsabilités sont touchées. On ne rentre pas au travail, on veille avec eux, on veille au grain avec eux parce qu'ils sont malades, hein? On veut en prendre soin. Donc, à un certain moment, le cœur d'une mère peut être transpercé. Donc, la vie est bouleversée, le style de vie de la mère est bouleversé avec l'argent, avec les loisirs, avec les responsabilités, quand il y a de la maladie. Mais à un certain moment dans la vie d'une mère, son cœur peut aussi être transpercé. Par exemple, si son enfant souffre, la mère souffre. Hein? Si après lui avoir montré une manière de vivre, l'avoir éduqué, le jeune, quand il grandit, il prend l'adolescence, puis il veut affirmer sa propre volonté, fait des choix qu'il pense être bons pour lui, mais que tu sais, toi, sa maman, que ce n'est pas bon pour lui, ton cœur est transpercé. Tu sais que tu es obligé de le laisser aller. Tu es obligé de le laisser se débrouiller. Et s'il part avec des dettes, puis il fait des choix qui l'endettent, puis tu dis, oh, mon ami, je n'ai même pas les moyens de l'aider. Puis en même temps, je pense qu'il faut qu'il apprenne de ses choix. Puis là, un cœur de mère, c'est comme si j'aurais un petit peu plus d'argent, me semble que je l'aiderais, même quand il est rendu un adulte. Puis à un moment donné, tu sais qu'il faut que tu coupes un peu le cordon puis tu le laisses aller pareil. Le cœur d'une mère est transpercé aussi quand il y a des conflits non réglés entre les membres de la famille, que ce soit l'enfant avec le père ou l'enfant avec elle-même, ou entre les enfants, entre eux. Le cœur d'une mère est transpercé aussi quand elle est rejetée après avoir, à ses yeux, donné tout ce qu'elle avait pour son enfant et que l'enfant tourne le dos, prend pour acquis cet amour-là. Et pour toutes ces raisons, on doit prendre soin des mères. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui puis c'est le pire jour de votre vie, vous, parce que, de l'année, parce que votre mère est décédée. Et vous dites, je ne peux même pas lui être reconnaissant. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui vous puissiez écouter le message en appréciant qui elle a été, qui elle est, mais qui elle a été durant ses jours sur la terre et en louant Dieu pour ce qu'elle a été pour vous? Que ce soit un moment de reconnaissance si vous l'avez perdu, votre maman. Peut-être que vous avez été élevé avec une mère qui n'est pas très démonstrative, pas affectueuse, critique beaucoup, qui contrôlante, peu importe. On ne veut pas juste... Tu sais, comme des fois, tu arrives d'un service funéraire, puis le gars, il a vécu comme un diable, puis il est présenté comme un ange. Puis toi, tu es assis dans le service funéraire, puis tu te dis, « Tabarouette, c'est-tu de la même personne qu'on parle? » Des fois, on a tendance, quand ils sont partis, d'essayer de les présenter mieux qu'ils sont, ou à cause que c'est la fête des mères, de dire que votre mère était géniale, tu sais. Mon but, ce n'est pas ça dans le message. Ce n'est pas d'essayer de trouver comment elle était géniale, nécessairement. Mais je pense qu'une chose, par exemple, c'est que votre mère a déjà été un enfant. Elle a déjà été un enfant, puis elle n'a peut-être pas eu ce qu'elle méritait d'avoir, ce que Dieu aurait voulu qu'elle ait, et peut-être que vous avez été déshérité d'un bagage émotionnel, d'une façon qu'on pourrait s'occuper de vous mieux. Et donc, si aujourd'hui, on fait juste grandir dans notre compréhension de ce que nos mères ont pu être bouleversées, transpercées, on va être capable peut-être de mieux les aimer aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut honorer nos mères? Je ne sais pas pour vous, comment vous, quand vous montrez de l'amour à quelqu'un, comment vous le faites? Il y en a qui sont très bons pour des actes de service, des cadeaux. Il y en a que c'est le cadeau. D'autres, c'est des attentions spéciales. Ma femme, c'est les attentions spéciales. Elle sait qu'elle a trouvé une carte des mères de plus. Puis elle dit, « Ah, qui me l'a acheté, celle-là? » Non, c'est, elle a dit, « Non, elle dit, personne qui me l'a acheté. » Elle en avait acheté deux. Elle en avait acheté une. Puis elle en avait acheté une pour sa mère. Elle en a racheté une autre pour sa mère. Juste pour vous dire comment elle est forte sur les attentions spéciales. Fait que ça, c'est son langage d'amour. Et je peux vous dire que c'est son langage premier. Puis moi, si je veux apprendre à l'aimer, il faut que j'essaie de le faire de ce côté-là. Mais qui a acheté la carte pour la fête des mères de ma mère, vous pensez? C'est ma femme. Ma femme a acheté la carte. Je dis, Steph, pourrais-tu acheter aussi la tienne? Non, c'est une joke. Non, mais l'autre, c'est aussi d'essayer de comprendre c'est quoi le langage de votre épouse, c'est quoi le langage de votre mère. Puis, j'ai du trouble à tenir la route pour ça, mais je pense que c'est important quand tu es assis avec une personne anglaise, que c'est toi qui essaies de parler anglais, que tu ne laisses pas juste essayer de se forcer à parler en français. Hein? Et donc, on a besoin, pour montrer l'amour, on a besoin d'essayer de c'est quoi le langage de la mère, de ma mère ou de mon épouse, ou de cette mère-là que je veux célébrer aujourd'hui, puis essayer de le trouver, puis essayer de faire quelque chose. Pour d'autres, c'est l'affection. Moi, c'est l'affection et les mots d'appréciation. Alors, je pense que juste le fait que je parle de ma femme présentement, puis que je dis comment elle est spéciale, qu'elle va me pardonner de ne pas y avoir encore donné une carte. Mais on doit grandir là-dedans. Donc, comment est-ce que vous allez aimer votre mère? Comment vous allez honorer les mères de votre vie? Si vous êtes une maman aujourd'hui, vous avez accepté que votre vie soit désorganisée. Vous avez payé un prix pour éduquer, reprendre, inculquer des valeurs à vos enfants et vous vous êtes sacrifié pour nous. Vous avez mangé des coups pour nous aussi. Et pour ça, on vous en suit reconnaissant. Donc aujourd'hui, par la vie de Marie, qui est la mère de Jésus, on va essayer de regarder le cœur de cette mère-là. On va voyager dans ses gougounes, si on pourrait dire. On va voir que Marie, le cœur de Marie, on peut faire apparaître la première à 7 ans. Non, ça, c'est pas la première. Celle-là, ce le serait. T'es-tu capable de cliquer sur la vidéo? Rien? OK, c'est pas grave, on va approcher de ça.
qui est donc le titre du message, c'est Marie et son cœur de Marie.
Marie et son cœur de mère, donc un cœur qui a été bouleversé, transpercé, mais aimé. Son cœur a été bouleversé, transpercé, mais aimé. Et ce qu'on va faire, on va commencer par son bouleversement. Après, on va aller voir comment son cœur a été transpercé, mais on va voir comment il a été aimé par notre Dieu. Donc, si on regarde dans la Bible un peu, on voit que lorsqu'on commence à lire les Évangiles, on s'aperçoit que le bouleversement a commencé assez tôt. Elle devait avoir environ 14 ans. Une femme était apte à porter des enfants et à se marier à peu près vers l'âge de 14 ans en Israël. Et donc, elle entend qu'elle va avoir un enfant alors qu'elle est encore vierge. Ça fait beaucoup d'imprévus, n'est-ce pas? C'est genre pas ce que j'avais prévu. Hein? Combien de vies ont été bouleversées par une grossesse qui n'était pas attendue? Hein? Eh bien, elle, sa grossesse n'était vraiment pas attendue. Et il y avait une prophétie dans Genèse 3,15 qui disait qu'un jour, la femme va enfanter un enfant et cet enfant-là va vaincre Satan et ses démons. Et dans Genèse 3,15, déjà tout de suite après avoir mangé de l'arbre défendu, il y avait comme une promesse qu'une femme enfanterait le Messie et ce Messie-là serait l'adversaire premier de Satan et qu'il lui écraserait la tête. Et donc, il y a cette prophétie-là qui arrive, puis elle entend l'ange, elle n'entend pas qu'elle est en guerre contre Satan. Là. Elle entend que Dieu fait homme, va vivre en elle. Et les gens disent, vous autres les chrétiens, vous êtes drôles, vous croyez que Jésus est né d'une vierge. Ben oui, mais les Juifs l'attendaient depuis des centaines d'années. Dans Ésaïe 7, au verset 14, 800 ans avant que Jésus vienne, le prophète Ésaïe a dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. C'est intéressant de voir qu'il y a deux mots qui ont été utilisés. Un, on va regarder le mot hébreu, qui veut dire « n'ayant pas eu de relation sexuelle ». Donc, le mot « vierge », et dans certaines des versions, on voit « la jeune fille sera enceinte », mais c'était vraiment une vierge. Donc, chez les Juifs qui étudiaient la prophétie, ils savaient que ce n'était pas une naissance normale et que cette naissance-là, ce serait Emmanuel, qui veut dire « Dieu est avec nous ». Donc, Dieu avec nous naîtrait d'une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Dans la Septante, qui est une version de 72 érudits, mais on l'appelle les 70, en grec. C'est la traduction du mot hébreu en grec. Et le mot, c'est parthénos, et ça veut dire une jeune fille qui n'a pas eu de relation sexuelle et qui est en âge de se marier. Donc, il y a encore plus de précision dans le grec. Donc, 300 ans avant Jésus-Christ, quand que les érudits du grec ont transféré le sens du mot « vierge », qui était « alma », quand ils ont choisi un mot grec, le langage grec est une langue très précise, plus précise encore que le français. Il y a des distinctions bien importantes. Donc, c'est une jeune fille qui n'a pas eu de relation sexuelle et qui est en âge de se marier. Et quand on lit Matthieu, on voit que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, elle est en âge de se marier. Elle n'était pas encore mariée et elle est tombée enceinte par l'intervention du Saint-Esprit. Là, l'ange vient d'annoncer ça à Marie et là, Joseph en entend parler. Et ça vient le bouleverser parce qu'on voit Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Première pensée, vous pensez, Joseph, qu'est-ce qu'il a pensé? Sa future femme est enceinte. Règle générale. Ça veut dire quoi? Qu'elle s'est assise sur un bol de toilette? Exactement. C'est qui l'adultère? C'est qui a couché avec ma future femme? La première pensée, c'est sûrement ça, mais on ne le voit pas. On ne sait pas cette douleur-là, mais une chose est certaine, Joseph veut la laisser. Et s'il dit qu'il ne veut pas la déshonorer, c'est qu'à quelque part, il comprend la prophétie d'Ésaïe 7,14 que Dieu avec nous viendrait d'une vierge. Il comprend probablement ce verset-là, mais il ne veut pas que ça paraisse mal. Il ne veut pas que pendant que Dieu accomplit sa promesse avec elle, il y ait de l'air de celui qui a couché avec elle et qui l'a mis enceinte. Donc, pour ne pas la déshonorer, l'exposer au déshonneur, il se propose de rompre secrètement avec elle. Et donc, ça fait apparaître Les bouleversements font apparaître, par exemple, la peur de paraître déshonorer le mariage. Même si la lapidation pour ce genre de péché-là au premier siècle n'était pas courante, okay, c'était socialement considéré comme un déshonneur. Donc, il y a la peur de paraître pas intègre alors qu'on est intègre. Il y a aussi une autre peur qui est là, qui bouleverse, c'est son chum menace de la quitter. Son conjoint, pas encore son mari, mais son fiancé, il menace de la quitter. Combien de mamans ont décidé de garder un enfant, puis le conjoint a dit, garde, on se laisse là. Combien de mamans ont dû élever leurs enfants monoparentales? Hein? Et il y a eu un rejet en acceptant l'enfant, en refusant l'avortement, en décidant de garder cet enfant-là. Combien de jeunes filles se sont retrouvées à élever leurs enfants avec l'aide souvent des grands-parents? Et le conjoint est parti quand les enfants sont en bas âge ou quand on a annoncé que le bébé viendrait, et c'est parfois plus facile de fuir que de faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu as un enfant, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses t'occuper de cet enfant-là, que tu en prennes soin, jusqu'à temps qu'il devienne adulte. Et parfois, c'est plus facile de fuir que de faire ce que Dieu veut. Et quand le rejet de la part de celui que tu aimes, en plus d'avoir l'enfant, celui que tu aimes, il s'en va. Là. Joseph dit, je vais m'en aller, là, ça ne paraît pas bien, cette histoire-là. Hein? Heureusement, dans ces périodes-là, une femme peut se confier en Dieu et ces bouleversements rendent les personnes très attentives à Dieu. Et c'est une fenêtre de temps où cette maman-là qui reste avec l'enfant puis que le conjoint est parti, c'est une fenêtre pour l'Évangile. C'est une fenêtre pour trouver refuge en Dieu puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire au travers de ça? Et Matthieu, lui-même, Joseph, pensait, puis il pensait à la quitter puis il réfléchissait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'était un choix qui était difficile. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et alors que la parole de Dieu vient dans son cœur, les promesses de Dieu viennent dans son cœur, sais-tu quoi? La parole de Dieu rend l'intolérable tolérable. Même si tu as peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont raconter dans le village, même si tu vas avoir l'air d'un adultère, un fornicateur, la parole de Dieu prend priorité sur ce que les gens pensent de nous. Et on peut continuer à marcher dans l'intégrité, continuer à faire confiance à Dieu et dans ses promesses. Parce que là, il y a aussi l'intégrité. C'est-à-dire que là, Dieu fait une promesse, « Cet enfant-là vient de moi, n'aie pas peur. » Il lui promet comme une protection. Et il y a, même s'il y a les apparences, il y a aussi l'intégrité. Puis je m'aperçois que Dieu n'a pas peur des apparences. C'est-à-dire que lui, il sait, Dieu, que Jésus est né du Saint-Esprit puis que Joseph, c'est un gars intègre qui n'a pas couché avec Marie. Il sait que Marie est couchée avec un autre homme aussi. Et à un moment donné, savez-vous quoi dans notre vie? Il faut arrêter de vivre par rapport à ce que les gens pensent de nous. Puis on doit faire ce qui est bon pour nos enfants, on doit faire ce qui est bon quand on veut servir Dieu. Et là, Joseph, entre la pression sociale de ce que les gens pouvaient dire de lui et son intégrité, puis les promesses de Dieu, il a dit, « Gars, je vais continuer dans mon intégrité et je vais honorer la parole de Dieu. » Point final. Et il ne savait pas que Dieu avait un autre plan, c'est-à-dire de les faire partir de Nazareth. Donc, il n'y aurait même pas à souffrir du jugement de Nazareth pendant que Jésus aurait jusqu'à peut-être quoi, entre 3 et 10 ans. Dans les 3 prochaines années, Dieu vient leur couper un slack. Il vient leur donner un break. Pourquoi? Parce qu'il y a un recensement, un voyage imprévu pendant la grossesse de Marie, peut-être avant même qu'elle ait un bedon, on ne sait pas, mais il doit faire 3 jours de route, partir de la Galilée et descendre à Bethléem en Judée. Et ça, c'est un imprévu, encore un bouleversement. Quitter familles et amis, puis ils ne savent pas qu'ils sont partis pour plusieurs années. Mais Dieu, lui, il sait, mais il ne le dira pas. Et donc, ils vont retourner au village de Nazareth seulement quand l'enfant va être avancé en âge. Et ça va permettre à Dieu de protéger Marie et Joseph de la critique des gens, de la communauté, et durant toutes les jeunes années de Jésus. Et ce qui compte pour eux, c'est qu'ils sont intègres devant Dieu. Ils n'ont pas diffamé le mariage et leur foi en Dieu va être une protection pour leur cœur durant cette période de bouleversement. Et ce qui est remarquable, c'est que le plan de Dieu d'avoir l'enfant Jésus inclut la vulnérabilité au rejet des autres, sortir de notre zone de confort, mais aussi les promesses d'être avec la mère tout au long. Donc, la mère, le père et l'enfant vont rester unis tout au long du processus. Même si tu ne verras plus grand-maman, mon oncle, ma tante, même si tu es séparé pour un temps des gens de ta propre famille, tu sens à quelque part que Dieu il prend soin de tout ça et tu es réconforté. C'est ce qu'ils ont découvert plus que les années ont avancé. Et là, il y a ce voyage imprévu à Bethléem. La naissance est imprévue. Une vierge, ça ne s'attend pas à avoir un enfant du jour au lendemain, n'est-ce pas? Un voyage imprévu. Une manière d'avoir l'enfant qui est imprévu puis qui trouve aux critiques extraordinaires de ton village. Et là, les voilà qui sont en route à Bethléem, qui est à 10 km de Jérusalem, font 3 jours de marche, mais se rapprochent de la ville sainte. Une des raisons aussi, c'est que le fils doit être présenté le 8e jour. Et donc, eux, ils vont parce qu'il y a un recensement où ils sont dans la famille de David. En passant, c'est Joseph qui est dans la famille de David, mais Marie est aussi dans la famille de David. Même s'il n'est pas le père biologique, pour cesser toute critique, Dieu donne à Joseph la maison de David et à Marie la maison de David. Donc, quand on recule dans la généalogie, les deux viennent de la maison de David. Marie, parce qu'elle est la mère légitime, puis Joseph, pour faire fermer des bouches. OK? C'est intéressant, hein? Donc, ils s'en vont. Hey, on dirait que c'est un message sur Noël, mais on va progresser. Vous allez voir, on va s'en aller à Pâques. Ce ne sera pas long. Donc, il y a un recensement. Et il y avait une prophétie dans Luc, chapitre 2, verset 4, qui dit « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour faire inscrire sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. » Donc, on ne sait pas combien de temps qu'ils ont resté, mais peut-être qu'elle a fini sa grossesse là-bas. Et elle mit son... elle a fini sa grossesse, mais on ne sait pas combien de temps. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge. Ici, c'est des linceuls pour envelopper les morts. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Ah, c'est très intéressant ici. On voit que dans ce voyage-là, l'accouchement va avoir lieu finalement dans une grotte. Hein? Dans une grotte. On dit ici que c'est dans une... C'est quoi qui est écrit? Bon, on ne le sait pas trop, mais on sait qu'il y a une mangeoire ici. Certains vont dire une crèche, tout ça, mais quand on étudie un peu comment les bergers ils faisaient paître leurs brebis, puis comment fonctionnaient les cimetières, il y avait des catacombes qui se trouvaient à être des endroits assez vastes dans le rocher, qui avaient des places pour enterrer les morts. Puis, il y avait aussi, quand il y avait des intempéries, les bergers amenaient leurs brebis ou leur pâturage dans ces endroits-là. Dans ces endroits-là, il y avait aussi des linceuls, des vêtements pour enterrer les morts. Hein? Et donc, il y a une mangeoire, puis il y a des linceuls. Et là, on voit Marie qui met son enfant dans une mangeoire, ça se trouve être son berceau. Tout un bouleversement quand même. Tu es enceinte, tu es en travail, puis l'hôtel, il n'y a pas de place à l'hôtel pour toi. Puis il faut que tu y ailles dans une place que quand il mouille, les brebis sont là, puis il y a des morts aussi. T'sais. Je veux dire, c'est comme un... C'est pas un animal quand même qui va naître, là. C'est le sauveur du monde. Là. Et donc, tu parles d'une adaptation, de bouleversement dans sa vie. Et quand Jésus a 8 jours, ils vont aller au temple. Puis dans Luc 2, 22, il dit « Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, c'est-à-dire le 8e jour, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Ici, on apprend que Joseph et Marie, ce sont des pauvres. Ce sont des gens qui, pour respecter la loi, ne peuvent pas offrir un animal, une brebis, ou ils sont obligés d'offrir l'offrande des pauvres, c'est-à-dire 2 tourterelles ou 2 pigeons. Hein? Et donc, on voit que, loin de la maison, peu de moyens, hein? et donc peu d'argent, et il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je me suis posé la question, quand j'ai préparé ce message-là, s'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie parce qu'il n'y avait pas d'argent pour payer pour l'hôtellerie. Intéressant. Donc, sûrement que le coût de la vie était trop élevé pour eux, et donc ils ont dû faire des sacrifices, aller enfanter dans une grotte, et puis aller offrir le sacrifice des pauvres. Puis là, vers l'âge de 2 ans environ, Jésus a à peu près l'âge de 2 ans, ils n'ont pas encore retourné à Nazareth. Pour des circonstances qu'on ne sait pas, ils sont restés à 3 jours de marche au sud, à Bethléem, dans la ville de David. Et il y a des mages qui vont apparaître, qui vont arriver, puis ils vont chercher le roi des Juifs qui vient de naître. Marie, elle s'est fait dire qu'elle avait une grande grâce sur elle parce qu'elle avait, elle allait enfanter celui qui était le Messie du monde, le Sauveur du monde. Mais est-ce qu'en lui disant ça, l'ange lui avait dit aussi que le dragon attendrait juste qu'elle donne naissance pour venir dévorer son enfant? Est-ce qu'elle savait toute la colère de Satan contre Israël et le Messie qui viendrait de la nation d'Israël? Elle savait tout ça. Et je pense que aussi une maman, quand elle accepte d'avoir un enfant, c'est comme, est-ce qu'elle sait tous les bouleversements que ça amène dans une vie, puis toutes les douleurs aussi qui vont venir avec l'amour qu'elle donne pour cet enfant-là? Mais ici, c'est exceptionnel. La colère de Satan contre Israël et le Messie qui sortira d'Israël, Marie est l'élément déclencheur de manifestation de la colère du dragon. Dans Apocalypse, la nation d'Israël, qui est représentée comme une femme qui enfante, parce que ceux qui vont être sauvés durant la grande tribulation, les 7 années où il va passer des grandes choses sur la terre, Israël est présenté comme une femme enceinte, qui a 12 étoiles sous elle, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et elle est présentée comme celle qui enfante. Et on voit le verset qui dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Excuse-moi, les étoiles, c'est sur sa tête. Elle est enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur sa tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Est-ce que Marie savait qu'en donnant naissance à l'homme-Dieu, un roi enragé ferait l'entreprise de tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem? En passant, on parle d'un village d'à peu près 100-120 personnes, puis on parle de peut-être 10 dizaine d'enfants. Les gens, des fois, disent « Pourquoi on ne retrouve pas ça dans les annales? Il y a eu des meurtres pas mal plus grands que ça dans le temps. » dont des gens qui sont rentrés dans le temple puis ont tué tout le monde qui était dans le temple cette journée-là. Donc, il n'y a pas dans les annales historiques de Rome tuer 10 dizaines d'enfants pour satisfaire la folie d'un roi enragé. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui attire l'attention des historiens. Surtout que personne ne faisait aucun cas de Jésus à ce moment-là. Donc, la colère était à son stade embryonnaire à la naissance de Jésus. Un roi qui s'appelle Hérode, il veut faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Marie, elle a dit oui pour l'enfant. Elle n'a pas dit oui pour l'enfant. On lui a appris, puis elle a dit OK. Elle n'a pas dit oui pour le recensement enceinte. Et elle n'a pas dit oui non plus pour une naissance dans la caverne. Elle n'a pas dit oui pour une guerre sans pitié ou un dragon qui attendait juste de dévorer son enfant. Mais on voit que Dieu pourvoit par des mages qui vont apporter des aliments qui vont les aider à subsister. Et ils vont apporter de l'or suffisant pour les faire vivre 1 an ou plus en Égypte. Parce qu'il y a un Joseph, à cette heure, qui est marié avec Marie. Si l'ange ne va pas apparaître à Marie maintenant, il va apparaître à Joseph, qui est le chef de sa famille, et il va lui dire, prends ta femme, prends ton enfant, et amène-la en Égypte. Hein? Et puis encore, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Donc, il y a une fuite en Égypte jusqu'à la mort du roi fou. Et il y a de l'argent suffisant pour prendre soin de l'enfant, parce que les mages, quand ils sont arrivés, ils ont amené de l'or aussi. Et donc, l'adaptation d'avoir un enfant dans un monde difficile est grande. Vous entendez des fois des gens dire « Moi, avoir des enfants dans ce monde de fous. » Et à quelque part, ils ont vu qu'on est dans un monde turbulent, un monde bouleversé. Et ces gens-là disent c'est quelque chose d'avoir un enfant dans les âges dans lesquels on est. Et donc, ça demande beaucoup d'adaptation d'avoir un enfant dans un monde difficile. Et Dieu qui pourvoit aux oiseaux du ciel pourvoit aussi aux mamans dans notre génération. Comme il a pourvu aux mamans dans cette génération-là. Et donc, notre foi nous rend vainqueurs dans ces temps-là. Perdre son enfant. Avez-vous déjà perdu votre enfant au centre d'achat ou ailleurs, où vous avez vous-même été perdu? Levez la main ceux que c'est arrivé. OK. Ça serait le fun d'entendre vos histoires. Moi, une fois, j'ai perdu ma mère parce que j'étais trop distrait au centre d'achat. Hein. Je l'ai cherché. J'étais allé, finalement, quelqu'un m'a trouvé en détresse, puis m'a amené, puis ils ont annoncé dans le micro le nom de ma mère, puis j'ai vu que c'était pas elle qui m'avait abandonné, c'était moi. Mais Jésus était à Nazareth, Jésus était à Jérusalem, parce qu'entre l'âge de 3 ou 10 ans, c'est écrit qu'il allait à Jérusalem à chaque année, et Jésus va faire sa bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est une fête en Israël où quand l'enfant est rendu à l'âge de 12 ans, il est supposé être capable de répondre aux questions importantes de tout l'Ancien Testament, et on l'appelle bar mitzvah, fils de la loi. Donc Jésus, à l'âge de 12 ans, est un fils de la loi, et il devait répondre à des questions. Mais non seulement il était en train de répondre à des questions, il enseignait les maîtres de l'enseignement dans le temple. 12 ans, petit gars, mais il a laissé son omniscience de côté en tant qu'homme, et il a appris les Écritures par le Saint-Esprit qui lui enseignait, et il les lisait où il allait à la synagogue. Donc, c'est assez particulier. À l'âge de 12 ans, le petit gars, il enseignait les enseignants du temple et les gens étaient complètement frappés. Mais Marie, elle, se faisait déjà une journée qui était partie en caravane. En caravane, c'est qu'on voyageait en groupe de peut-être 30, 40, 50 personnes. Puis il y avait mon oncle, ma tante, là, il était à Nazareth, il avait retrouvé le noyau familial. Fait que le petit Jésus, il était avec quelqu'un, il était peut-être avec un cousin ou avec un mon oncle, ma tante. Puis en tout cas, on continuait notre chemin. Mais là, une journée de marche. Hey, Jésus, il n'est pas là. Une autre journée de marche pour revenir, puis la troisième journée, ils vont le trouver. Okay? Et donc, moi, personnellement, tu sais, quand on a eu notre enfant, Kayla, un soir, on essayait de matcher un couple ensemble, deux personnes qu'on trouvait qui allaient bien ensemble, fait qu'on passait beaucoup de temps avec eux. Puis on est allé marcher autour d'un carré à Montréal, puis on a oublié notre enfant dans l'auto. Notre enfant avait quoi, peut-être 2 mois? Même pas, hein? Il était nouveau-né. On est rendu au milieu de la marche, à peu près à 10 minutes de ce bord-là. On est revenu en 3 minutes. Hein? On a découvert qu'on avait oublié l'enfant dans l'auto. Fait que là, part à courir, elle revient. Tu sais, elle déborde les portes. Kayla, elle pleurait. Tu sais. Fait que tu dis, ouf, oublier son enfant, c'est quelque chose. Donc, il fallait réaliser que là, ça a bouleversé notre vie. On ne pouvait plus faire ce qu'on voulait, aller marcher comme qu'on voulait. Puis, il fallait prendre soin d'un enfant. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On va aller juste ici. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient, ça veut dire que lui aussi partageait, ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, mais sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? » Et il leur était soumis. Donc, j'ai fait des petits 3 petits points là, parce qu'on ne peut pas tout nécessairement partager. Mais ici, la maman, c'est aussi quelqu'un qui dispute, corrige, reprend. Et elle lui dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais il lui dit qu'il était en train d'éprouver sa bar mitzvah. C'est-à-dire, il était en train de démontrer qu'il était un fils de la loi. Hein? C'est important. Mais le verset dit, il leur était soumis. Une maman, c'est précieux pour montrer à ses enfants quoi ne pas faire. Ce n'est pas une question de légalisme ou de privation, c'est une question de savoir-vivre. Puis dans Proverbe 6, verset 20, « Mon fils, garde les commandements de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et une mère, ça nous a montré plein de choses à ne pas faire, puis plein de choses à faire, mais ça nous a aussi corrigé, ça nous a redressé comme Jésus, pourquoi tu nous as fait ça, là? Et le bonheur commence par une série de choses à éviter dans ce monde. C'est pourquoi dans le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Le bonheur, nos mères nous l'ont montré en nous montrant plein de choses à ne pas faire. Ils nous ont montré que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Ils nous ont montré que si notre ami faisait de quoi de mal, bien elle, c'était notre mère, puis ce n'est pas de même qu'elle nous a élevés. Hein? Et ça, c'est précieux, une maman qui peut avoir investi comme ça dans la vie d'une personne. Maintenant, j'ai parlé des bouleversements qui sont venus quand Jésus était en bas âge. J'aimerais dire que le cœur de Marie a été transpercé. Elle a reçu, dès que son bébé avait 8 jours, elle a commencé à voir dans quoi ce qu'elle était embarquée. Parce qu'un homme qui était recouvert de l'Esprit et qui attendait le Messie, son nom c'était Siméon. Dieu lui avait montré qu'il verrait le Messie avant de mourir. Il était là, dans le temple, et il a pris l'enfant. Et il a dit, « Siméon, bénit l'enfant, l'est béni, et dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » toi-même, une épée te transpercera l'âme et ainsi les pensées de beaucoup seront révélées. Et là, tu sais, tout le monde sont contents de le voir. Puis là, il y a une autre femme qui s'appelle Anne qui commence à faire un cantique. Et c'est écrit, ils étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Mais tout de suite, tu as ça, cette parole-là, une épée te transpercera l'âme. Et donc, une série d'événements vont arriver durant la vie de jeunes adultes de Jésus qui vont transpercer le cœur de sa mère. Et une des choses, c'est que Jésus n'était plus un enfant et il devait maintenant affirmer son autonomie. Et une des choses, le premier miracle qu'on voit, c'est dans Jean chapitre 2, au verset 1, c'est les noces de Cana. Et dans ce cas-là, Marie elle conduisait quand il était enfant, mais là, elle devait prendre le banc du passager. Et c'était dur. La façon que Jésus lui a demandé de prendre la place du passager était quand même assez difficile. Il n'y a plus de vin. Le mariage, les gens ont du fun, mais il n'y a plus de vin. Puis pas de vin, c'est pas le fun. Fait que dans le fond, elle va lui dire, fais quelque chose, il manque du vin. Puis elle sait qu'il est Dieu fait homme. Fait qu'il l'appelle, il va lui dire, femme. Il ne va pas l'appeler mère. Il va l'appeler femme. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et donc, Marie utilisait son privilège d'être la mère pour dicter un miracle puis que les choses se passent comme elle voulait. Mais là, Jésus est rendu à 30 ans et Jésus doit actualiser sa propre liberté puis maintenant faire ses propres choix et il doit lui-même tenter d'obéir à Dieu du mieux qu'il le peut. Et c'est difficile parfois de laisser aller nos enfants et cela peut percer notre cœur de les laisser actualiser leur propre choix dans leur vie et dans ce qu'ils croient être bon dans leur vie et de réaliser que tu vas juste demeurer disponible dans un but non éducationnel, mais dans un but de conseil. L'enfant est rendu à 30 ans, tu ne peux plus juste lui dire de mettre sa tuque l'hiver. Tu sais. Par exemple, quand il avait 3 ans, tu ne demandais pas s'il voulait sa tuque ou pas la tuque. Mais quand il est rendu, là tu dis, gars, on met la tuque, on la met-tu la rouge ou la bleue? Tu lui donnais des choix. Mais il fallait qu'il mette sa tuque. Quand que l'adolescent est rendu là, avec ses sneakers dans la neige, son petit manteau de printemps pour l'hiver, puis qu'il décide de sortir les cheveux mouillés de la douche, tu ne peux pas juste lui dire, veux-tu la tuque bleue ou la tuque rouge? Il faut que tu lui dises, t'es sûr que tu ne veux pas une tuque? Parce que tu sais très bien que si tu te le mets à dos, ça ne sera pas le fun, ça va être la guerre. Mais quand il est rendu à 30 ans, tu ne lui dis pas, veux-tu la tuque bleue ou la tuque rouge? S'il t'appelle, tu vas lui dire, ben garde, sais-tu quoi? Fais qu'est-ce que tu veux. Et donc, c'est un petit peu la même affaire avec Jésus, puis avec maman. Le cœur de mère doit apprendre à un moment donné à laisser son enfant ou la nouvelle unité qui est le nouveau couple, faire la sauce à spaghetti d'une nouvelle façon, puis d'élever leurs enfants à la manière qu'ils veulent les élever aussi. Fait qu'il y a comme un genre de... Quand que ton enfant te dit, excuse-moi, mais on est mariés maintenant, puis on ne reste plus sous ton toit, on peut-tu élever nos enfants? T'sais, ça te dérangerait-tu si on élèverait nos enfants comme on pense que moi puis mon conjoint veut le faire? Et là, ça peut venir blesser un cœur de mère qui voudrait le meilleur pour ses petits-enfants aussi. Donc, le problème ici, quand Jésus, il manque de vin, c'est que sa mère veut qu'il fasse un miracle. Mais Jésus, lui, il le sait qu'il ne peut pas paraître publiquement à moins de paraître en Judée d'abord, puis ensuite dans la Galilée. Et Cana est en Galilée, et les premiers miracles qui doivent se faire, c'est à Jérusalem, dans la Judée, puis ensuite dans la Galilée et aux extrémités. Donc, l'ordre de la campagne miraculeuse de Jésus doit commencer, pas en Galilée, mais à Jérusalem. Mais il va demander poliment à sa mère de quitter le banc du conducteur pour prendre le banc du passager. Et la réponse de Marie indique qu'elle a compris parce qu'elle lui dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc, à quelque part, ce n'était pas un nom de la part de Jésus, mais « Laisse-moi ici le contrôle. Je suis le Seigneur, puis je vais contrôler. » Et elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et il va avoir un miracle, mais selon les termes du Fils. Et le miracle va avoir lieu dans le secret. Et il y a seulement ceux qui versent l'eau dans les outres qui servaient à des purifications qui vont voir l'eau être changée en vin. Et l'ordonnateur du repas, lui, va dire « Waouh, comment se fait que le vin est bon du début jusqu'à la fin? » Et le miracle va quand même avoir lieu. Donc, à quelque part, on voit ça dans les Écritures, mais il a sûrement expliqué à Marie, « Je ne peux pas faire des miracles en public tout de suite. Laisse-moi. » Et donc, il lui a dit de prendre le banc du passager. Et ça, dans la vie d'une mère, à un moment donné, elle doit apprendre à transférer de siège. Et ça peut lui percer. Oui? Oui, c'est ça. OK, et qu'est-ce que... OK. OK, donc, tu vois ça comme un manque d'honneur s'il n'aurait pas fait le miracle? OK, c'est un bon point de vue. C'est intéressant. Ça mériterait qu'on s'y attarde. Donc, il a fait le miracle en privé quand même, mais selon les termes du Père céleste. Hein? Et c'est pour ça qu'il a répondu à sa mère quand elle a disputé, je faisais les choses de mon Père. Donc, l'autorité familiale, c'était le Père céleste. Et donc, quand une autorité intermédiaire vient te demander de faire le contraire d'une autorité supérieure, tu te dois d'obéir à l'autorité supérieure. Donc, Jésus devait obéir au Père et non pas à sa mère dans ce cas-là ici. Intéressant. Ça mériterait une bonne... merci. Transpercer aussi, ça a été une douleur pour Marie qui était, je pense, qui était difficile parce que là, Marie, elle s'était fait demander de passer du banc de conducteur au banc de passager, mais là, Jésus va lui demander de s'asseoir sur le banc en arrière sans la déshonorer. Sans la déshonorer. Marie se fait demander de passer sur le banc passager, du banc de passager à la banquette arrière, et ce jour-là, elle a compris que d'avoir en elle le Dieu homme, de l'avoir élevé, d'avoir pris soin de Jésus, Dieu fait homme, ne la plaçait pas dans un privilège ou une exemption de faire ce que Dieu veut. Jésus est en train de prêcher. La foule est pressée sur lui. Ses frères, ses sœurs et sa mère, en tout cas, ses frères sont là, ses sœurs, on ne sait pas. Il a eu au moins 4 frères et 2 sœurs. Je vais vous en reparler tantôt. Dans Matthieu 10, je vais vous redonner le verset tantôt pour ça. Mais ses frères et ses sœurs sont comme, « Hey, nous, on est dans la famille de Jésus. » Puis là, Jésus commence à être populaire parce qu'il y a plein de monde. Fait qu'ils disent, « Allez dire à Jésus que ses frères et sa mère sont là à l'extérieur. » Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que la réponse de Jésus va venir transpercer le cœur de Marie tout en étant honorant de sa mère. Il doit absolument la transpercer. Mais Marie doit-elle garder le même cœur que lorsque l'ange Gabriel l'a visité? Quand Marie, l'ange l'a visité, elle a dit ceci. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle reconnaissait qu'elle avait besoin d'un Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Elle a eu un grand privilège, mais elle n'a pas eu le privilège de ne pas faire ce que Dieu veut. Pourquoi elle n'était pas assise avec les gens pour écouter? Pourquoi ses frères n'étaient pas là pour devenir des disciples de leur grand frère, Jésus? Parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Et là, Marie, elle se fait reprendre publiquement parce qu'elle se prend pour la mère et ses frères se prennent pour ses frères et considère que la popularité de Jésus devrait honorer sa famille, premièrement. Mais une des choses qu'on apprend assez tôt dans le royaume de Dieu, c'est que la relation avec Dieu prend priorité sur tous les liens familiaux. La relation avec le Père céleste est plus grande que la relation avec nos pères et nos mères et nos frères et nos sœurs. Okay? Et ça, ici, c'est important. Parce que regardez l'histoire, la mère et ses frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. » Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Oh! Ça, là, c'est un pieu dans le cœur de Marie qui voit son fils la blesser presque à mort. Mais Marie doit reconnaître qu'elle a besoin d'un sauveur qui est né d'elle. Hey, c'est quelque chose, hein? Elle a besoin de se laisser enseigner par son fils. Son fils a plus de vérité qu'elle sur ce sujet-là. Et elle doit s'humilier puis écouter son propre fils. Son amour est dangereux pour son fils et ça peut la porter à la perdre. Parce que si elle pense que parce qu'elle a eu le Messie en elle, son ticket pour le ciel est garanti. Elle n'a pas besoin de s'asseoir puis écouter la parole puis de faire ce que Dieu veut. Elle est sur le chemin de l'enfer. Mais Jésus l'aime trop pour ne pas aller prendre l'épée puis venir diviser dans son cœur l'amour qu'elle a pour son propre fils qui pourrait la perdre. Et combien de gens, à cause de liens familiaux, ne font pas le pas d'obéir pleinement à Dieu? Pourtant, la famille, c'est un des liens les plus forts sur la terre qu'on voit. Puis quand un accepte le Seigneur, on dirait que sa famille vient avec. C'est pas rare qu'on a vu ici une famille, une personne vient au Seigneur, puis qu'on a vu le père, la sœur, le mononcle, le cousin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Pierre et Jean et Jacques Jean, c'est le frère de Jacques. C'est pas pour rien que André a amené Philippe, ou Philippe a amené André, ou peu importe, puis André a amené Nathaniel. C'est tous des gens de proches de famille. Parce que la famille, c'est un lien qui est tellement fort sur la terre que quand tu fais confiance, tu reçois aussi ce qui vient de l'autre. C'est un moyen puissant, mes amis, pour amener l'Évangile. Un conjoint accepte, l'autre vient, les enfants viennent. Ah, c'est merveilleux. Mais en même temps, la famille, c'est une des puissances sur la terre qui empêche les gens de faire ce que Dieu veut aussi. Et donc, c'est souvent le moyen le plus puissant pour s'éloigner du Seigneur, de ce que Dieu veut pour nous. Souvent, quand un membre de la famille met de la pression, on cherche l'acceptation de la famille et on s'empêche de marcher avec Dieu. Une personne de ma propre famille m'a dit, quand je lui ai dit que j'avais reçu la vie éternelle, je n'irai jamais dans ton église, je n'irai jamais à ton mariage et tu ne parleras jamais de Dieu dans ma maison. Quelle intimidation! Quel choix que cette personne-là me plaçait entre l'amour de cette personne qui était proche de moi dans la famille et l'amour de mon Dieu que j'étais prêt à tout laisser pour le suivre. Et je suis certain ici qu'il y a plusieurs qui ont brisé des liens familiaux pendant un certain temps. Je suis certain de ça. Moi, j'ai continué à aller dans les bars avec mes amis, mais je ne consommais pas. J'ai dit, moi, je ne coupe pas mes relations. Fait que je vais rester leur chum, mais je ne ferai pas ce qu'ils font. Puis ils m'ont dit, écoute, t'es plate, fait que on veut plus sortir avec toi. Et là encore, ça coûte, ça dit tabarouette. Je veux dire, Seigneur, tu m'as-tu dit, quand je t'accepterai, tu me donnes la vie éternelle et toute bénédiction? Mais aussi des persécutions dans le siècle à venir. Et la famille est un des puissances dans ce monde pour nous intimider aussi, puis dire, « Hey, sais-tu quoi? Si je fais ça, je vais perdre ma femme. » J'ai une fois évangélisé une femme, et elle était rendue au baptême. Et puis là, quand je l'ai appelée pour le baptême, elle a dit, « Sais-tu quoi? On cancelle tout ça. » J'ai découvert quelques années après que le conjoint, si elle faisait son baptême, le conjoint la laisserait. Quelques années après, elle a suivi son mari, qui s'était tout mis beau, tout en habit. Elle l'a suivi chez sa maîtresse. Elle est revenue. Elle a laissé le mari, le couple a été divisé. Et finalement, elle est devenue un disciple de Jésus. Ce n'était pas la punition de ne pas avoir marché avec Jésus. C'est qu'elle a été séparée de toute façon. Mais l'idée, c'est, si je fais ça, ma femme va te suivre. Si mon mari s'éloigne, je vais-tu continuer? Si ma femme s'éloigne, si mes enfants... Si ma mère ne veut pas que je sois chrétien, je vais faire quoi avec ça? Qu'est-ce que je vais faire? Et savez-vous quoi? Jésus, il amène une épée. Hein? Jésus, il dit dans Matthieu 10, 34, il dit, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter, non la paix, mais l'épée. L'épée qui nous transperce, l'épée qui nous divise, l'épée qui blesse nos relations au plus profond de nous. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemi des membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et présentement, Marie et les frères de Jésus aimaient Jésus d'un amour terrestre, et ils devaient le recevoir comme sauveur du monde. Et donc, ils aimaient Jésus plus en tant que frère, qu'il l'aimait en tant que sauveur. Et donc, Jésus amène l'épée. Jésus a transpercé le cœur de Marie. Il risquait de la perdre pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a retrouvée pour Dieu. Parce que celui qui perd... Le verset continue en disant, « Celui qui prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, mais celui qui prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Pourquoi c'est deux fois ça? OK, il est deux fois là. C'est un bonus. Coûte le même prix. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et là, on voit une Marie qui a décidé de se laisser transpercer le cœur. Et elle est dans Actes 1:12, elle est avec les disciples pour recevoir le Consolateur. Alors, il retourna, ça c'est après que Jésus soit mort et ressuscité. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée des Monts des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La famille est là, surtout les frères. Marie a été bouleversée Ça a commencé jeune, à 14 ans. Elle n'a pas resté où ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas l'argent qu'elle voulait. Elle n'avait pas la guerre qu'elle avait choisie. Elle a été déportée en Égypte. Je veux dire, beaucoup de choses qui ont bouleversé sa jeune vie. Elle a aussi été transpercée. On a vu des paroles difficiles du Seigneur qui dit, « Excuse-moi, c'est à mon père qu'il faut que j'obéisse. » On a vu que quand il était devenu adulte, il fallait aussi qu'il fermisse sa vie d'adulte. Mais elle a aussi été aimée. Elle était là en prière pour attendre la consolation de la perte de son fils. Dans Actes, elle est là, puis elle attend que l'esprit de son fils vienne en elle. Elle vivait son deuil dans la prière. Si vous avez perdu des enfants en tant que mère, l'Esprit de Jésus veut venir en vous pour vous consoler. Le Saint-Esprit est appelé dans la Bible le consolateur, celui qui vient porter quelque chose de trop difficile à porter. La mère, la seule mère qui puisse recevoir l'Esprit de son fils en elle, c'est Marie. Donc, si votre fils ou votre fille est mort, son Esprit ne viendra pas en vous. Mais l'Esprit de Jésus va venir en vous et va vous réconforter. Des fois, dans un service funéraire, on entend n'importe quoi, comme « parle-y, il est là », ou « il va venir en toi », ou peu importe. Non, l'Esprit de Jésus va venir en toi et va te consoler et te donner la patience de retrouver ceux que tu as perdus s'ils sont avec lui. Il va te consoler si tu en seras toujours séparé, mais l'Esprit de Jésus va être là. Une mère qui a perdu son fils ou sa fille peut vivre son deuil avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Quand Jésus était à la croix, savez-vous qu'il ne restait pas grand monde là? Il restait, on en voit 4-5 des disciples, des gens de son cercle familial. Maman est là. Yes! Quand tous les disciples se sont poussés dans le jardin, maman, elle risque, elle aussi, de passer au tordeur, parce que ceux qui étaient proches de Jésus pouvaient, étiez-vous de leur nombre? Hein? On pouvait leur dire ça, puis commencer à essayer d'être méfiant envers eux, puis de faire quelque chose à ces gens-là. Maman endure beaucoup pour ses enfants. Maman est là quand ça va mal, même quand l'enfant est rendu à 33 ans. Hein? Il y a là sa mère, il y a Marie, la sœur de sa mère, et Jean, qui semble être son cousin aussi. Et ça, peut-être je vous l'apprends, ce n'est pas Jean-Baptiste. Mais Marie avait une sœur qui s'appelait Marie. OK, fait qu'il y a beaucoup de Marie dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, je pense qu'il y a une personne sur quatre féminin qui s'appelle Marie. Quand vous voyez des choses comme des reportages, là, comme quoi, qui ont trouvé le tombeau là, de Marie de Magdala, là, c'est parce qu'une personne sur quatre s'appelait Marie. Fait que tu ne peux pas juste dire qu'ils ont trouvé un tombeau avec un gars, une femme qui s'appelait Marie, puis que c'était Marie de Magdala. Il y a là sa mère, Marie, la sœur de sa mère, et Jean, qui semble être le fils de Marie, parce que quand elle va chercher les aromates, c'est écrit Marie, la mère de Jacques, qui est allée aux aromates. Puis là, on voit Marie, ici. Ça semble être Jean semble être son cousin, puis Marie, sa tante. Fait qu'on a ma tante, maman Marie, ma tante Marie, puis cousin Jean. Puis la seule autre personne qui est là au pied, c'est qui? C'est une prostituée qui a été aimée beaucoup puis qui aime beaucoup. Les autres sont toutes parties dans la tempête. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie. Ça se trouvait être la mère de Jean ici, ou de Jean, la mère de Jean et Jean. Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala, la prostituée. Jésus, l'ancienne prostituée. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Ça, c'est Jean. Jean, quand il écrit l'évangile de Jean, il ne se nomme jamais par son nom. Il dit qu'il est le disciple que Jésus aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Quand tous les disciples ont abandonné, sauf Jean, les liens familiaux sont encore là. Mon oncle, ma tante, cousin, puis celle qui a vraiment été pardonnée beaucoup, qui aime beaucoup. Une dame qui a été pardonnée beaucoup. Okay. N'est-ce pas cela le cœur d'une mère? Souffrir avec même quand l'enfant est devenu adulte, risquant de devenir une itinérante si les frères et sœurs, qui sont encore incroyants, ne la prennent pas sous son aile. En passant, les frères n'étaient pas croyants quelques jours auparavant, mais ils sont 50 jours plus tard à la Pentecôte, dans la réunion de prière. On voit que les frères de Jésus, la mère de Jésus, sont là en prière pour attendre le Saint-Esprit, mais on ne voit pas ses sœurs. Fait que, en Israël, si tu ne t'occupais pas de tes parents, ils devenaient des itinérants. Hein? Et donc, Jésus va dire, excuse-moi, OK, le verset, si vous voulez savoir combien de frères et sœurs il y a eu, c'est dans Matthieu 13, verset 34. Il a eu 4 frères au moins et 2 sœurs au moins. Matthieu 13, verset 34. Donc, les liens, là encore là, ça vient de transpercer le cœur. Jésus est sur la croix, puis il vient de dire qu'il n'est plus sa mère. Que maintenant, elle est la mère de Jean, puis que lui, il est son fils. Et ça, juste de réaliser que les liens de parenté, les liens de famille qu'on a sont juste pour la terre, c'est encore une fois une blessure qui fait mal, mais en même temps, c'est un réconfort. Pourquoi il ne veut pas qu'elle devienne itinérante? Mais quel amour qu'on voit là. Jésus confie sa mère à Jean, le disciple qu'il aimait. Et parmi les 12, il a été au feu jusqu'à la croix. Et il serait un très bon, il prendrait soin de sa mère parce qu'il est allé jusqu'à la croix avec lui. Fait qu'il va aussi prendre soin. Et la grâce a été sa motivation. J'aimerais juste prendre quelques minutes. Je vais laisser un petit peu mes notes pour vous raconter une histoire. Puis on va terminer avec ça. L'histoire, c'est l'histoire de Laurie, qui était mariée avec un gars qui s'appelle Terry. Et on trouve ce témoignage-là sur le site familylife.com. C'est un témoignage vrai. C'est un témoignage qui est difficile. Laurie puis Terry sont mariés depuis 8 ans. Et depuis un mois, Terry est invivable. C'est invivable à la maison et décide de quitter. Et à ce moment-là, il lui apprend qu'il y a une autre personne dans sa vie qui s'appelle Vicky. Et elle souhaite reprendre son mari, elle souhaite pouvoir le pardonner, elle serait prête à vivre avec ça, mais elle dit, si jamais il y a un enfant, là, elle dit, oublie ça. Puis finalement, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte, dans la même semaine à peu près, puis il lui dit, votre mari a une maîtresse, est-ce que vous le saviez? Elle dit, oui. Elle dit, est-ce que vous savez qu'il est enceinte? Elle est enceinte de 4 mois. Et là, ouf! La douleur, parce que là, c'est dit, si jamais il y a un enfant, là, oublie ça. Fait que là, un mois, il y a vous l'adultère, mais ça date de plusieurs mois, voire années. Mais là, la fille est enceinte de 4 mois, puis elle est trop en rage, fait qu'elle demande à quelqu'un de venir avec elle pour conduire la voiture, puis elle s'en va là où ce qui est la maison mobile. Puis elle essaie de regarder par les fenêtres. Et puis, elle s'approche de la maison, elle cogne à la porte, la femme, elle ne veut pas répondre. Hein. Elle commence à y crier des noms. La femme, elle a déjà un enfant. Vicky, elle a un enfant. Puis elle dit, arrête de crier des noms comme ça, c'est pas bon pour mon enfant. Mais elle dit, toi, elle dit, as-tu respecté mes 2 enfants quand tu as couché avec mon mari? Puis elle continue, elle dévisse une canne. Puis finalement, elle a appelé son mari, qui est encore son mari, puis elle lui dit, je veux te voir à soir, je veux qu'on parle. Puis quand elle est revenue de chez Vicky, il l'attendait sur le patio. Et ils se sont assis ensemble. Ils ont eu une discussion difficile, puis il dit, je nous ai rendu une situation invivable à la maison pour que tu veuilles que je m'en aille, parce que je n'étais pas capable de t'avouer que j'étais fidèle depuis un certain temps. Et il y a eu une lutte qui était là. Puis finalement, elle a dit, si Dieu me donne la force, je serai prêt à te reprendre. Elle s'est mise à genoux. Je suis prêt à te pardonner pour ce que tu as fait. Puis elle dit, je suis prêt à élever cet enfant-là comme si ça serait mon 3e. Puis elle dit, je l'ai dit, j'ai fait un saut. Puis elle avait de l'amertume là, quand elle a dit ça, mais elle a fait le pas. Elle a fait ce pas-là que personne n'est obligé de faire en passant. Une personne qui a été trompée n'est pas obligée de reprendre son conjoint. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle a choisi de le faire. Et puis on doit respecter une personne qui n'a pas fait cela. Okay? Parce que la Bible dit, dans Matthieu 5, au verset 31, que le lien du mariage est brisé lorsqu'il y a adultère. Mais elle a décidé de dire, elle a dit à son mari, avec la force que Dieu me donne, je vais aimer cet enfant-là comme si c'était mon 3e. Si tu reviens, je te reprends toi, puis je vais accepter l'enfant. Et lui, ça l'a vraiment bousculé, ça l'a bouleversé, et puis il a demandé pardon au Seigneur, il a demandé pardon à sa femme, ils se sont réconciliés, et il est allé annoncer à Vicky que c'était terminé la relation. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout au long de la grossesse, elle avait des combats. Elle voyait que Vicky n'avait pas d'argent, puis tout ça. Fait qu'elle a acheté des vêtements de maternité pour l'aider. Puis elle l'a rencontré au Walmart en même temps qu'elle était en train d'acheter les vêtements. Puis là, elle a dit, c'est trop pour moi, Seigneur, c'est trop pour moi. Tu sais, elle venait de l'engueuler, là. Fait qu'elle est allée payer les vêtements, elle l'a mis dans un sac, puis elle l'a donné à la sœur de Vicky. Puis elle a dit, Seigneur, elle dit, pourquoi tu me conduis dans ça? Et puis finalement, durant la grossesse de Vicky, ils l'ont amenée au Seigneur. Elle est devenue une femme de Dieu. Elle a grandi dans une église, dans la même église locale qu'eux. T'imagines fréquenter la même église locale que l'adultère, la personne qui a commis l'adultère avec ton mari. Et cette femme-là a rencontré un autre homme de Dieu, ils sont devenus un couple fort dans le Seigneur. Et à chaque semaine, il y avait la garde partagée. C'était Laurie qui allait chercher l'enfant. Et c'était devenu une routine que de passer du temps avec la dame. Et son mari dit, après 20 ans que ça a passé, c'était en 94, donc en 2014, l'article datait de 20 ans, l'histoire datait de 20 ans, son mari dit, 20 ans après, elle a fait ce qu'elle a dit. Elle a aimé mon fils comme si c'était le sien. Et Dieu a donné deux mères à cet enfant-là. Un mariage qui était complètement détruit. Mais par grâce, quelqu'un qui a décidé de donner de la grâce. Donc, en conclusion aujourd'hui, peut-être votre mère est décédée. Et j'espère qu'en partageant ce message-là, je vous ai encouragé à apprécier ce que peut être votre vie avec elle. Qu'est-ce qu'a été ses sacrifices, ses bouleversements, les choses qui peuvent y avoir brisé le cœur. Et que ça a été pour vous, dans cette relation-là, pour la terre, un moment de dire, sais-tu quoi, c'est une relation pour la terre. Je sais qu'elle n'est pas ma mère au ciel, mais si je vais la retrouver, je vais la connaître, c'est certain. Mais est-ce qu'on peut juste rendre grâce à Dieu pour qu'est-ce qu'a été sa vie ou comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce que vous avez pu ouvrir votre cœur puis réaliser les bouleversements d'une nouvelle vie qui arrive dans la vie d'une maman et que les mamans ont eu à leur tour, ont été à leur tour des enfants et que peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait reçu que ce que vous auriez dû recevoir aussi? Et en ce sens, ça nous rend plein de compassion aussi. Comment est-ce que vous allez honorer vos mères aujourd'hui? Est-ce que vous allez remplir, faire un service, un cadeau, une attention spéciale? Un appel sur le répondeur, un petit peu farfelu. Est-ce que vous allez envoyer une fleur? Est-ce que l'affection, des mots d'appréciation? Moi, pour ma part, aujourd'hui, je m'en vais marcher dans l'endroit où, à chaque dimanche, je pleurais de ne pas retourner au collège. Puis ma mère, elle, ce qu'elle faisait le dimanche, parce que je repartais au collège, j'étais séparé de mes deux parents durant mon adolescence. Ma mère, elle savait que je ne filais pas. Fait qu'elle m'amenait faire du ski de fond à la base de plein air de Longueuil. Fait que j'ai dit, « Maman, tu ne viens pas, c'est moi qui monte aujourd'hui. Tu ne fais pas de voyagement. Je m'en vais, on va arriver cet après-midi. On va aller marcher à l'endroit où tu avais l'habitude de consoler mon cœur. Et on va aller marcher à cet endroit-là. » Fait que, qu'est-ce que vous allez faire pour démontrer la reconnaissance à vos mamans? J'aimerais vous partager un verset en conclusion. Peu importe quels ont été les bouleversements, peu importe ce qui a transpercé votre cœur, et là, je parle à tout le monde. Okay? Je veux lire le verset de Jérémie 30, Jérémie 30, verset 17, jusqu'à verset 20. Quel beau verset! Puis on va terminer avec ça, puis on a aussi quelque chose après ça, puis on va faire un chant, puis on va donner des petits cadeaux, je pense. Marie, elle ne l'a pas eu facile. Le ministère de Jésus, yes! L'homme-Dieu en moi. Guerre, déplacement, déportation. Là, Jésus commence à être populaire. Jésus lui dit, va au banc d'en arrière, il faut que tu sois sauvé. Là, elle voit le nombre de ses disciples venir, mais elle est impopulaire pour son fils parce qu'elle n'a pas passé par la nouvelle naissance, n'a pas accepté le Seigneur pour elle-même. Oh! Mais on voit qu'elle devient son disciple. À la croix, tous les disciples l'abandonnent. Il reste juste quelques liens familiaux, puis une personne qui a été pardonnée beaucoup, qui sont là à la croix. Tout semble être un échec. Et ça me fait penser à la nation d'Israël qui a été amenée en déportation et qui ont vécu beaucoup de choses souffrantes. Jérémie, le prophète, qui a prophétisé durant leur déportation, a dit, « Je provoquerai ton rétablissement. » « Je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel, car ils t'ont appelé l'expatrié, Sion dont plus personne ne se soucie. Voici ce que dit l'Éternel, je vais ramener de déportation les familles de Jacob. J'ai pitié de ses habitations. La ville sera reconstruite sur ses ruines et le palais retrouvera sa place. Des manifestations de reconnaissance et des cris de réjouissance se feront entendre de leur part. Je les rendrai nombreux, ils ne diminueront plus. Je les rendrai importants, ils ne seront plus méprisés. Ses fils deviendront comme ils l'étaient dans le passé et son assemblée subsistera toujours. Ce n'est pas un beau verset, ça? Et Marie, Jésus avait quelques frères avant la croix, mais après la croix, il y a des millions de frères. Et c'est une famille extraordinaire qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Et son assemblée ne diminuera plus. Le nombre des frères de Jésus ne fait qu'augmenter. Amen. Et quelle belle promesse. J'aimerais finir avec la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ceux qui étaient là aujourd'hui. Merci pour la vie de Marie. Merci que dans les bouleversements, tu as toujours montré que tu l'accompagnais. Dans les transpercements, tu lui as montré que les blessures prouvent l'amitié. Quand c'était son propre fils qui la blessait, Seigneur. Il la blessait parce qu'il l'aimait et voulait qu'elle soit sauvée. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour les mamans aujourd'hui. Je te remercie pour elles, Seigneur. Merci pour ce qu'elles ont. Elles ont accepté de passer en deuxième pour nous placer en premier, pour prendre soin de nous quand on était petits, Seigneur. Et encore, Seigneur, quand on souffre, souvent elles ne sont pas loin. Je te remercie pour nos mamans, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les ados et les enfants puissent être reconnaissants. Donne-leur un cœur reconnaissant pour les mamans, Seigneur. Si vous êtes ici aujourd'hui pour la première fois ou encore vous n'avez jamais fait cette prière pour recevoir la vie éternelle, la Bible nous dit que Jésus est venu dans le monde, est né d'une vierge. Il était sans péché. Il a vécu la vie parfaite que vous deviez vivre et il est mort de la punition que vous deviez subir. Sur la croix, Jésus mourait. C'était pas un échec, c'est un succès. Il mourait pour sa mère, il mourait pour les mères, il mourait pour tout le monde et il portait la punition que méritaient nos péchés. Si vous voulez, comme Marie, accepter Jésus comme votre sauveur, reconnaître que vous avez péché et que vous avez besoin de Jésus comme votre sauveur, répétez cette prière avec nous. Faites pas une prière magique, croyez ce que vous dites et la Bible dit que vous allez recevoir le don de la vie éternelle. Répétez après moi, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ était sans péché. Il a vécu la vie que je devais vivre. Il est mort de la punition que j'aurais dû subir. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Merci.